Martin se poursuivent avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Riyad pourrait admettre que Jamal Khashoggi a été tué par accident. Des médias américains alertent ce matin quand Donald Trump évoque lui des éléments, des tueurs incontrôlables, comme pour protéger le pouvoir saoudien. Cette nuit, une perquisition a été menée sur le lieu de la disparition du journaliste. Nous rejoindrons notre correspondante à Istanbul.
Et puis nous ferons le point sur le forum économique organisé cette semaine à Riyad. Justement, si de nombreux groupes américains vont le boycotter, les entreprises françaises restent prudentes.
Dans cette édition encore, nous entendrons les questions qui se posent au lendemain d'intempéries meurtrières dans l'Aude, dans le sud de la France. Les pluies diluviennes ont fait au moins 11 morts, 3 disparus. En France, les milieux urbains ne sont pas assez dégagés pour voir le danger arriver, dit un architecte.
La France insoumise présente un contre-budget face à celui du gouvernement, un budget 2019 dédié à l'écologie avec davantage de mesures sociales, quitte à exploser le déficit, nous l'analyserons.
L'attente du remaniement, l'attentisme presque, avec le risque d'être déçu, tout ça pour ça. Voici le thème du billet politique de Frédéric Seyss, il nous rejoindra après ce journal. Cacher cette disparition que je ne saurais voir. Le pouvoir saoudien finira-t-il démasqué comme Tartuffe dans Molière? Cela fait 2 semaines que Riyad nie avoir exécuté le journaliste dissident Jamal Khashoggi, mais cela pourrait changer aujourd'hui. L'Arabie saoudite s'apprêterait à reconnaître sa mort, nous y reviendrons dans un instant, alors qu'une perquisition a eu lieu cette nuit au consulat saoudien d'Istanbul en Turquie, là où Jamal Khashoggi a été vu pour la dernière fois. Bonjour Anand Lauer.
Bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondante à Istanbul. Au petit matin tout à l'heure, l'équipe de la police turque a quitté le bâtiment saoudien.
Oui, la perquisition des enquêteurs turcs a duré un peu plus de 8 heures. Elle s'est donc déroulée 2 nuits dans toutes les pièces du consulat, y compris dans le jardin et sur la toiture. On a d'ailleurs vu des policiers turcs examiner les toits à la lampe torche et prendre des photos. De l'extérieur du bâtiment, on pouvait aussi voir par moments la lumière d'une pièce s'éteindre et une lumière bleue s'allumer, signe que les policiers recherchaient des traces de sang et autres traces d'ADN. Ankara estime quasiment depuis le premier jour que Jamal Khashoggi a été tué au consulat. Les enquêteurs ont quitté les lieux en apportant des échantillons, notamment de la terre du jardin. Il faut rappeler que cette fouille n'a été rendue possible qu'à l'issue de longues négociations avec l'Arabie saoudite. Pendant toute la durée de la perquisition, les membres de la délégation saoudienne arrivés en Turquie le week-end dernier se tenaient d'ailleurs aux côtés des policiers turcs.
Alors, je l'évoquais il y a une minute, en marge de cette perquisition, Riyad se préparerait à changer sa version des faits et à reconnaître, Anne, la mort de Jamal Khashoggi.
En effet, d'après plusieurs médias américains, dont la chaîne CNN, les autorités saoudiennes, qui affirment depuis le début que le journaliste a quitté sain et sauf leur consulat, serait finalement en train de préparer un rapport reconnaissant que Jamal Khashoggi est mort lors d'un interrogatoire qui aurait mal tourné et que cet interrogatoire aurait été mené sans l'autorisation du pouvoir saoudien. Cela irait dans le sens d'une thèse avancée par le président américain Donald Trump. Celui-ci, après un échange téléphonique avec le roi Salman d'Arabie saoudite, avait expliqué que la disparition de Jamal Khashoggi pourrait être le fait, je cite, « d'éléments incontrôlables ». Le président américain a dépêché dans la foulée son secrétaire d'État Mike Pompeo à Riyad. Ce dernier est également attendu en Turquie ce mercredi.
Merci Anne Andlauer depuis Istanbul ce matin pour France Culture. Voilà pour les conséquences diplomatiques de cette affaire Khashoggi. Sur le plan économique maintenant, elle commence aussi à faire des remous. Lundi prochain s'ouvre à Riyad le Davos du désert, regroupant l'élite économique et politique mondiale. Mais déjà, la banque américaine JP Morgan et des fonds d'investissement refusent de s'y rendre. Idem pour des médias américains tels que le Financial Times, le New York Times et The Economist. Se désistent encore le président de la Banque mondiale ou le patron d'Uber. En France, les entreprises, elles, pour le moment, préfèrent rester discrètes, Victor Vasseur.
Et on sent le dossier sensible, que ce soit chez Thales, la Société Générale, Accor Hotel ou encore à la BNP Paribas. Ces entreprises ne sont pas très prolixes concernant leur présence à ce grand forum économique. Aucune annulation pour le moment, mais un voyage discret comme pour le patron d'EDF. Le déplacement est toujours inscrit dans l'agenda de Jean-Bernard Lévy. En revanche, on nous assure qu'il n'y aura aucune prise de parole en public, car pour EDF, comme les autres entreprises, l'Arabie Saoudite peut devenir un marché très lucratif à l'avenir. Didier Billion est le directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques.
Il y a des enjeux financiers importants, notamment dans le domaine de l'armement, bien sûr. Vous avez cité Thales, le fameux projet Vision 2030 qui a été initié par Mohamed Ben Salman est susceptible de d'aboutir à la conclusion de marchés assez substantiels pour nombre d'entreprises françaises, par exemple dans le secteur des transports ferroviaires, dans le métro, etc. Les entreprises françaises considèrent que si elles ne vont pas à ce fameux Davos du désert, si elles n'engagent pas plus avant des négociations sur tel ou tel secteur, d'autres le feront à leur place. Donc il y a toujours cette ambiguïté lorsqu'on négocie avec des régimes autoritaires. Si on fait valoir la morale, d'autres nous prendront la place.
La deuxième édition du Davos du désert à Riyad doit être une vitrine pour l'Arabie Saoudite du prince héritier Mohamed Ben Salman, une vitrine pour son plan Vision 2030. L'objectif, transformer le pays, le premier exportateur de pétrole, en géant technologique et touristique.
Alors l'Arabie Saoudite risque-t-elle de perdre ses alliés sur tous les plans? Xavier Martinet s'était penché aussi sur la question ce matin dans ses enjeux internationaux, à réécouter sur franceculture.fr ou à podcaster.
Et l'actualité ce matin nous emmène aussi dans le sud de la France, dans l'Aude, Clara.
Où les intempéries ont fait 11 morts. Selon le dernier bilan de la préfecture, 3 disparus et 9 blessés. Dans les communes les plus fortement touchées, comme à Trèbes, hier matin, il est tombé 3 mois de pluie en quelques heures. C'était la nuit dernière. Les voitures ont été balayées par les torrents, les maisons ravagées. Et se pose ce matin la question du système d'alerte de Météo France. Le département de l'Aude avait été rehaussé en vigilance rouge hier matin à 6h, alors que l'eau montait déjà. Selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur, la vigilance orange avant cela est très souvent utilisée en France et les gens n'en tiennent plus compte. La classe politique toutefois s'empare déjà de ce sujet, l'opposition dénonçant l'absence de politique d'anticipation. Les écologistes alarment de nouveau sur l'urgence écologique en France et dans le monde, comme David Corman, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts.
C'est l'un des symptômes du dérèglement climatique. On est confronté à des événements climatiques extrêmes auxquels nous n'étions pas préparés. On a des territoires qui sont très peu équipés pour affronter de telles intempéries. Et il y a un deuxième élément qui est l'aménagement du territoire. On sait que dans le sud de la France, il y a des zones où on a construit dans des endroits où peut-être on n'aurait pas dû construire. Donc là, vous avez une sorte de double peine, de tenaille, où non seulement vous avez des phénomènes climatiques extrêmes qui sont de plus en plus fréquents et de plus en plus importants, et en plus, des territoires qui ont été trop ou mal urbanisés. Et donc, il y a encore un effet accélérateur quand il y a ce type d'intempéries. Je crains qu'on n'ait pas pris la mesure de cette réalité, puisque les gouvernements, les uns après les autres, expliquent qu'il y a trop de normes, que tout ça est trop compliqué. Je crois que pour l'instant, la logique mercantile l'emporte sur les principes de précaution et sur le fait de préserver ces territoires pour des raisons environnementales, mais aussi pour des raisons de sécurité.
Alors que faire dans les villes en amont lorsque l'on conçoit les espaces urbains à cause du ruissellement de l'eau? Voici des éléments de réponse apportés par l'architecte Éric Daniel Lacombe, spécialiste des risques naturels.
On sait fabriquer des choses qui laissent une transparence hydraulique, qui fabriquent des abris quand même bien plus sûrs, qui permettent à des familles, voire des quartiers entiers de se regrouper. On a d'autres types de réflexions qui mettent toujours ce que j'appelle l'architecture engageante, incitatrice, qui est celle qui vous fait lire le sens du courant, la hauteur de l'eau, la vitesse, et qui vous fait dire à vous tout seul qu'il faut y aller ou pas y aller, rester ou monter d'une marche. Vous voyez, comme on est ou on serait sur une plage à marée haute. Quant aux abris, ils seront pas individuels. Il nous faut inventer des nouveaux modes de société. Si vous allez au Japon, les abris sont collectifs. Ils réunissent comme ça un groupe de familles. Aux États-Unis, c'est la même chose.
L'architecte Éric Daniel Lacombe, interrogé par Fabienne Sintès. Ce matin, la décrue se poursuit par endroits, mais l'Aude reste en vigilance rouge. Avec des déplacements encore compliqués, une cinquantaine de routes départementales sont coupées, tout comme le trafic des trains au départ de Narbonne ce matin. Près d'un patient sur 10 n'a pas de médecin traitant. Voilà ce qui ressort d'un rapport sur les déserts médicaux remis hier soir à la ministre de la Santé. Au total, 75 caisses primaires d'assurance maladie identifient des difficultés dans ce domaine sur leur territoire. Un manque de médecins quand les urgences parallèlement sont submergées. Cercle vicieux que certains tentent d'enrayer en proposant des solutions. Le député La République En Marche de l'Isère, Olivier Véran, a ainsi déposé un amendement au projet de loi de finances de la Sécurité sociale. Il propose de donner une prime aux hôpitaux qui acceptent de réorienter certains patients vers un cabinet de médecine générale. Encore faut-il que les médecins soient disponibles. Le texte doit être discuté cet après-midi en commission à l'Assemblée nationale. Dans l'hémicycle, cette fois de l'Assemblée, le marathon budgétaire a débuté sur le budget 2019. Le gouvernement y défend un projet de loi tourné vers ceux qui travaillent, tandis que l'opposition dénonce des mesures anti-pouvoir d'achat. Plus de 2000 amendements ont été déposés, soit près du double par rapport à l'année prochaine. Et parallèlement à ce budget proposé par le gouvernement, la France insoumise a, elle, présenté hier son contre-budget. Les élus prévoient de rompre avec l'austérité aveugle, disent-ils, sans s'empêcher de dépenser. Tout est parti en fait de la crise politique actuelle, Alexandra Dubucheron.
Et si les insoumis arrivaient au pouvoir en cas de revers de la majorité, au lendemain des élections européennes, c'est le postulat de départ de Jean-Luc Mélenchon.
Supposez, il y a une dissolution. Et derrière, il y a des élections, et puis tenez, supposons, on les gagne. Que va-t-on faire dans les deux mois qui suivent pour que le cap soit pris dans le tournant? C'est ça que ce document explique. Vous voyez, on est prêt.
Dans ce contre-budget baptisé document d'urgence, les insoumis ont planché à l'équilibre. Environ 50 milliards d'euros de dépenses et de recettes pour le projet de loi de finances, quitte à aggraver le déficit. Mais c'est pour la bonne cause, assure Éric Coquerel, député de Seine-Saint-Denis et membre de la commission des finances.
Nous revendiquons de créer un déficit qui, pour la première année, sera supérieur à la sacro-sainte règle des 3% de déficit. Pour une simple raison, c'est que cet investissement, nous le mettons surtout sur l'écologie, et que nous estimons que la seule dette, en réalité, qu'il ne faut pas léguer aux générations à venir, c'est la dette écologique.
30 milliards d'euros pour l'écologie la première année, mais aussi des mesures sociales, création de 15 000 logements étudiants, 70 000 places en crèche, hausse du SMIC et un seuil de pauvreté.
Il ne doit plus y avoir un seul revenu minimum dans ce pays en dessous de 1 000 euros.
Pour les recettes, les insoumis s'attaquent notamment aux droits de succession.
Il y a une constitution d'une noblesse d'argent, donc il est nécessaire de remettre en place un véritable impôt de succession à la fois juste et qui, nous l'assumons, au-delà de 33 millions d'euros, est à 100%.
Et en attendant d'appliquer leur budget, les insoumis examinent le budget du gouvernement. Cette semaine, ils sont à l'origine de 67 amendements sur les 2000 déposés au total.
2000 amendements déposés au total, c'est près du double par rapport à l'année dernière. Budget toujours, mais en Italie, le gouvernement a approuvé hier soir le projet pour 2019. Il prévoit d'augmenter les dépenses de protection sociale, d'abaisser l'âge légal de départ à la retraite et de creuser le déficit, malgré les mises en garde de Bruxelles.
8h12 sur France Culture, c'est la suite du journal de Clara Lecoq-Réal, une sénatrice américaine candidate démocrate pressentie pour la présidentielle de 2020 a publié un test ADN prouvant ses lointaines origines amérindiennes.
Et elle relance du même coup une longue dispute avec Donald Trump qui doute de sa filiation et la surnomme même Pocahontas. On se souvient il y a quelques années du débat lancé par Donald Trump d'ailleurs sur le certificat de naissance de Barack Obama. Eh bien, rebelote Grégory Phillips.
La sénatrice du Massachusetts, Elizabeth Warren, qui est l'une des figures du Parti démocrate, fait régulièrement l'objet d'attaques de la part de Donald Trump, qui dans ses meetings ou à la télévision l'a ainsi rebaptisé.
He said she's Native American, and I said Pocahontas. Pocahontas, I apologize to you. I apologize. To the fake Pocahontas, I won't apologize.
Pocahontas, du nom de cette indienne qui a vécu ici en Amérique au début du XVIIe siècle et popularisée notamment par Disney. En utilisant ce sobriquet caricatural, Trump accuse Warren de mentir sur ses origines indiennes afin de faire progresser sa carrière et notamment dire qu'elle est issue d'une minorité. Warren répond donc en publiant le résultat d'un test ADN qui démontre qu'elle a bien des ancêtres Native Americans sur 6 ou 10 générations. Pourquoi fait-elle ça aujourd'hui? Sans doute un peu pour faire cesser les attaques de Trump et le prendre à son propre jeu. Cet été, le président avait promis de verser $1 million à une association caritative si la sénatrice parvenait à prouver ses origines. Ensuite, pour dire qu'elle n'a jamais utilisé son passé. Enfin, on se dit qu'avec cette réponse à Trump, Elizabeth Warren est en train de sérieusement se positionner pour la présidentielle de 2020.
Grégory Phillips, depuis Washington pour France Culture. Dans le sillage des États-Unis et du Guatemala, l'Australie envisage de transférer à son tour son ambassade en Israël de Tel Aviv à Jérusalem. C'est ce qu'a annoncé hier soir le Premier ministre australien Scott Morrison. Une telle mesure serait une rupture avec la politique que les gouvernements australiens successifs appliquaient dans ce domaine depuis des décennies. Pour Theresa May, la frontière irlandaise ne doit pas empêcher un accord sur le Brexit. La Première ministre britannique s'exprimait hier soir à la Chambre des communes à Londres avant un Conseil européen essentiel, conseil qui va s'ouvrir demain soir à Bruxelles. Et puis en bref encore, il avait cofondé Microsoft avec Bill Gates en 1975. Paul Allen est décédé hier des suites d'un cancer. Il avait claqué la porte de Microsoft en 83. Multimilliardaire, philanthrope, sa fortune est estimée à plus de 21 milliards de dollars. Paul Allen avait 65 ans. Nous l'évoquions dans ce journal, l'Aude reste en vigilance rouge pour des risques d'inondation ce matin. Le temps aujourd'hui par ailleurs restera pluvieux près de la Méditerranée. Il sera calme et bien souvent ensoleillé partout ailleurs. Quand les habitants du sud subissent donc l'eau, ceux du nord-est subissent toujours la sécheresse. Et les températures ce matin comptaient 13 degrés à Bordeaux, 15 à Rennes et Strasbourg, 18 à Lille, Lyon, Perpignan, 19 degrés en région parisienne, 21, ce sera la maximale sous la pluie niçoise.